Deutsche Welle, Économie et Développement.
Savez-vous ce qu'est le D8? Il s'agit de Developing Eight, une organisation née il y a 20 ans et qui veut favoriser le développement sud-sud entre certains pays musulmans. Elle est actuellement présidée par la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, qui veut poursuivre une méthode, le soft power, notamment en Afrique. Ce sera le thème de la seconde partie de ce magazine. La fripe menace-t-elle la production textile au Cameroun? C'est la question que l'on peut se poser alors que le pays, producteur d'or blanc, peine à faire vivre sa filière de fabrication de vêtements. En cause, l'arrivage de vêtements de seconde main davantage prisés par les consommateurs car moins chers. Écoutez le reportage réalisé à Douala par notre correspondant Henri Fautso.
Au Cameroun, le commerce des vêtements de seconde main ou friperie constitue une filière effervescente. Les autorités ont parfois essayé de combattre cette activité, mais tel ne semble plus en être le cas. Samuel Thiam est le représentant du ministère du Commerce dans le département d'Unkam, près de la capitale économique Douala.
Il faut déjà dire que c'est une activité florissante dans le tissu économique du Cameroun en général et dans le littoral en particulier. Florissant parce que tout le temps, on voit dans les marchés les ballots constitués de vêtements qui viennent de l'international.
Le marché Kololon en amont du port de Douala est vraisemblablement l'un des plus grands marchés de la friperie dans le pays. Avant qu'ils n'arrivent ici avec les vêtements, les revendeurs vont d'abord au déballage. Achille Di Amogou, revendeur.
Déballage, c'est aller là où on coupe les ballots. C'est-à-dire, on coupe le ballot devant vous, chacun est en train de trier ce qu'il peut payer. Il négocie les prix avec celui qui coupe le ballot qu'on appelle le déballeur. Dès que vous entendez sur un prix, tu prends les habits que tu as payés, tu mets dans ton plastique et tu viens au marché, tu t'installes, tu fixes les prix de vente en fonction des prix d'achat.
Entre revendeurs, c'est souvent le jeu du chat et la souris. En effet, un revendeur ne dira pas à son voisin où et quand il va au déballage.
C'est un secret professionnel, on ne va pas dire où est le déballeur. Parce que c'est moi le vendeur qui sait où est mon déballeur. Si je vous dis déjà, vous allez me faire le coup bas.
Parmi ces vêtements de seconde main, on en distingue de premier choix, de second choix, de fin de série, etc. L'administration veille cependant à ce que quelques formalités légales président à ce commerce. Le représentant du ministère du Commerce précise.
On peut importer, mais il faut respecter un certain nombre de conditionnalités. La loi, notamment, il faut jouer des titres de commerçant. Il faut également être importateur, c'est-à-dire qu'inscrit dans le fichier des importateurs avec toute la paperasse qu'il faut avoir. Et maintenant, pour couronner le tout, venir dans les services compétents du ministère du Commerce qui autorise à importer des marchandises.
Mais pourquoi peut-on préférer acheter des habits déjà utilisés et non des habits neufs? Edouard Kingé, client.
C'est parce que la boutique c'est cher, la friperie c'est abordable. Et nous sommes jeunes, on n'a pas de boulot stable, donc on préfère le bas prix que d'aller en boutique.
Aussi, la marge bénéficiaire serait-elle plus importante qu'avec le Ndia? Autre appellation des habits neufs ici, Achille Di Amogou.
Communément dans l'Ondja, on gagne 1000 francs, 500 dans le pantalon. Par contre, en friperie, tu peux payer le pantalon à 1500, tu es en train de vendre à 3000, 4000. Quand l'habit n'est pas bien apprécié en Kouloulou, on appelle boulaye. On dit que tu vends les boulayes, ça veut dire que tu vends quelque chose qui n'est pas bien.
Mais le prix de revente n'est jamais stable, Martel Di Amogou.
Oui, en ce qui concerne les prix, vous savez, c'est une cadence économique, ça se vend en fonction du prix d'achat. Donc tout dépend du départ, où tu fais tes achats, comment tu négocies tes prix au niveau de l'achat pour fixer tes prix de vente. Donc si tu fixes bien tes prix d'achat, au niveau du déballage, tu peux t'en sortir à fixer tes prix de vente ici.
Le marché de la friperie reste cependant un terrain très glissant. Des grossistes y ont parfois fait fortune, mais les détaillants ne s'en réjouissent pas toujours.
La friperie, sincèrement, je vous dis, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident pourquoi ? Parce que se construire une vie, ça veut déjà prévenir les enfants que nous allons avoir. C'est-à-dire prévenir le futur de ces enfants. Mais si toi-même, le peu que tu gagnes ici te permet de louer, de manger, mais c'est sûrement pour faire des épargnes et prévoir l'avenir de ses enfants. Ce n'est pas au marché Kouloulou que tu vas le faire.
Aussi, tout en notant les revenus fiscaux qu'elles génèrent, les pouvoirs publics sont conscients du danger sanitaire et économique que peut représenter la friperie. Samuel Thiam du ministère du Commerce.
La friperie, qui inonde le marché, peut constituer une concurrence déloyale vis-à-vis de l'industrie du textile local, notamment avec l'utilisme modéliste qui, au quotidien, prouve leur savoir-faire. Et une atteinte, on peut le dire ainsi, au tissu économique du Cameroun.
Le Cameroun est dans sa zone septentrionale un producteur de coton. Une infime partie de ce coton est transformée non seulement par l'artisanat, mais aussi par l'industrie textile locale et la friperie. En plus des importations massives, des prêt-à-porter et tissus neufs n'apparaît pas justement comme un catalyseur du développement endogène. Henri Frotso. À Douala pour la Deutsche Welle.
L'Égypte, l'Indonésie, le Bangladesh, l'Iran, le Nigeria, la Malaisie, le Pakistan et la Turquie ont un point commun. Tous font partie du D8. Ankara, qui est actuellement à la tête de l'institution, va-t-elle en profiter pour étendre son influence? Je me suis entretenue avec Denise Unal. Elle est économiste au CEPI, un centre de recherche et d'expertise sur l'économie mondiale.
Son intérêt, c'est quand même c'est de se situer dans un ensemble global, c'est-à-dire au-delà de sa propre région, dans un ensemble global et musulman à la fois, je crois. Et la réactivation de ce D8 qui était tombé un peu aux oubliettes depuis 2012, si j'ose dire, je crois que ça a été fondé en 1997 par Nejmettin Erbakan, un premier ministre islamiste avant Erdogan. Donc. Et je crois que pour la Turquie, ce qui est important, c'est d'organiser une coopération avec des pays musulmans, mais pas forcément arabe. Dans le D8, le seul grand pays arabe, c'est l'Égypte. Or, il y a l'idée où les musulmans non arabes sont très nombreux. Et ce qu'elle voulait faire, c'est de montrer une contre-proposition, sans doute, par rapport au reste du monde en tant que pays en développement musulman.
Recep Tayyip Erdogan est allé plusieurs fois en Afrique. L'Afrique, c'est quand même important. Il y a par exemple une base militaire en Somalie qui a fait beaucoup parler d'elle. Il y a le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, Absolument. Qui représente beaucoup d'opportunités. Quelle stratégie ça représente pour Erdogan? Quelles sont ses ambitions? Notamment, il y a le Nigeria, la Somalie. Quelles sont ses ambitions?
Alors, je pense que dans le cadre de D8, les relations africaines importent peu. Mais en revanche, l'Afrique, c'est un continent visé par les Turcs d'une manière culturelle et économique, je dirais. Avec Nigeria, même s'il y a une volonté de coopération, le commerce de la Turquie, les échanges de la Turquie sont vraiment très, très peu. Alors, en ce qui concerne les relations africaines de la Turquie, c'est en dehors de D8 qu'on devrait réfléchir et on devrait un tout petit peu regarder avant qu'est-ce qui se passait. C'était surtout les ministres, les hommes d'affaires liés à la confrérie guléniste qui étaient aux quatre coins du continent africain, en particulier dans l'Afrique subsaharienne. Et c'était pour les gulenistes, une manière de faire un commerce assez soft, très fondé sur les services, en particulier par leur réseau d'éducation. Et en cela, ils se distinguaient par rapport aux pays comme la Chine ou l'Inde sur le continent africain pour dire « Nous, nous sommes là pour ne pas exploiter les Africains, mais pour leur ramener des services ». Pour contribuer à leur développement. Mais en arrière-plan, quand même, il y a l'idée de profiter de la population africaine qui présente les taux de croissance les plus importants au monde. Et depuis qu'il y a eu un conflit entre le mouvement guléniste et AKP, et surtout la tentative du coup d'État en 2016, la principale préoccupation de l'AKP et du président Erdogan, c'était de faire fermer les écoles gulenistes en Afrique. Toutefois, ils accordent beaucoup d'importance à reprendre le réseau africain, mais en éliminant les gulenistes de ce réseau.
Vous avez parlé du soft power. Il y a aussi la présence de la compagnie Turkish Airlines qui est présente dans plein de pays africains. Ça aussi, c'est une manière de, voilà, d'attirer aussi les investisseurs turcs dans les pays africains.
En fait, la diplomatie et Turkish Airlines, à partir de l'époque des gulenistes, hein, est allée de pair. Tout ça, c'est très récent. Hein. C'est seulement depuis le début des années 2000. Qu'on a une trentaine d'ambassades dans l'Afrique subsaharienne, donc 39, et bientôt ça va être 44 ambassades. Et chaque fois qu'il y avait une ambassade, un service consulaire qui s'implantait dans un pays africain, on mettait des lignes aériennes avec la compagnie Turkish Airlines. Ça, c'est allé de pair. Et ça continue à aller de pair. Et la Turquie veut se montrer comme une puissance culturelle, un soft power, et surtout montrer que ce n'est pas une relation entre dominé et dominant, et qu'en cela, nous sommes différents des autres pouvoirs qui sont venus s'installer en Afrique. Alors, est-ce qu'elle le fait vraiment? Je ne sais pas. Il faut voir. Mais ce qui est important, c'est l'image que l'on donne par rapport à un colonialisme et post-colonialisme de l'Occident.
C'était l'économiste Denise Unal. Et si vous voulez réentendre ce magazine Économie et Développement, rendez-vous sur notre site dw.com/français, rubrique médiathèque. C'était Claire-Marie Kostmann au micro. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.